Ah, le libre accès des chiens guides. Vous savez, le fait qu'ils peuvent nous accompagner partout, en guidant leur maître ou avec leur famille d'accueil comme moi, eh bien si c'est inscrit aujourd'hui dans la loi, bien qu'encore difficile dans certains lieux, ça n'a pas toujours été le cas. C'est grâce à l'Association nationale des maîtres de chiens guides qui défend ce libre accès depuis sa création en 1979. Et l'ANM Chien Guide vient justement de lancer son application mobile à télécharger sur tous les stores où je vous encourage à signaler toute difficulté ou refus d'accès, mais surtout à adhérer gratuitement, que vous soyez maître de chien guide ou pas d'ailleurs. Et merci à l'ANM de soutenir mon podcast Futur Chien Guide. Bonjour et bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le premier podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles. Je suis Estelle, sa créatrice et également famille relais bénévole pour l'école des chiens guides de Paris depuis plus de 4 ans. Je vous donne rendez-vous chaque premier et troisième vendredi du mois pour partager avec vous mes rencontres avec des familles d'accueil, des maîtres chiens guides, mais aussi plein d'autres invités engagés auprès des chiens guides d'aveugles. Dans cet épisode, je vous présente Bérénice, qui a 14 ans et est accompagnée depuis quelques mois par Opium, son chien guide de la fondation Frédéric Gaillan. Malvoyante de naissance, Bérénice prend conscience dès ses essais à la canne blanche qu'elle serait plus à l'aise avec un chien guide d'aveugle, surtout face au regard des gens. Elle découvre alors l'existence de la fondation Frédéric Gaillan, seule association en France et en Europe à remettre des chiens guides à des moins de 18 ans. Mais comment obtenir un chien guide auprès de la fondation? Et comment gérer Opium dans son quotidien de lycéenne? De ses premiers pas à la canne, à sa rentrée au lycée, Bérénice nous raconte les différentes étapes qui lui ont permis d'être guidée aujourd'hui par Opium. Elle revient aussi sur l'autonomie que lui apporte son chien guide, mais aussi les éléments importants à prendre en compte avant de se lancer dans l'aventure en tant qu'adolescente. Après quelques difficultés à enregistrer, la qualité du son n'est pas au rendez-vous cette fois-ci. J'espère cependant que l'aventure de Bérénice vous fera oublier ce détail. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Bérénice.
Bonjour Estelle.
Merci de m'accorder un nouveau temps avec toi, puisqu'on a eu quelques difficultés à se trouver connectée, enregistrée, désenregistrée, etc. Donc je suis hyper ravie que tu m'accordes encore une petite heure ensemble. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter?
Oui, donc moi je m'appelle Bérénice, j'ai 14 ans et je suis malvoyante de naissance. Je suis en seconde du coup. Et j'ai un chien guide, Opium, c'est un labrador noir que j'ai eu à la fondation Frédéric Gaillan il y a environ 4 mois.
Ok, alors est-ce que pour nous, tu peux revenir un petit peu sur cette aventure et nous expliquer comment tu es arrivée à avoir Opium? Est-ce que du coup, toi, tu es déficiente visuelle depuis longtemps?
Moi, je suis malvoyante de naissance, donc on a détecté ça environ à mes 3-4 mois.
Donc ça a été détecté assez tôt. Et comment s'est passée un peu ton enfance dans tes souvenirs, alors pas à partir de 3-4 mois, mais comment ça s'est passé en grandissant, comment tu l'as vécu? Est-ce que tu voyais déjà très très peu? Quelle est ta vision?
J'ai environ un 1/20 de vue, donc c'est assez scientifique quand même, mais je vois pas les reliefs, je vois pas vraiment précisément un mètre, ni avant d'un mètre, je vois pas précisément. Et sinon, je vois un peu flou parfois. En fait, c'est très compliqué. Et j'ai une vision tubulaire, donc c'est-à-dire que je vois pas en haut, en bas et sur les côtés. En gros, je vois un peu comme dans un tube, quoi.
Donc comme si t'avais un tube devant et pas de vision périphérique, quoi.
Comme dans des jumelles.
Comme dans des jumelles. Et donc ça, c'est le cas depuis que tu es toute petite.
Ouais.
Et tu t'es adaptée, j'imagine, en grandissant. Comment ça s'est passé dans ton enfance?
On va dire quand j'étais petite, je tenais la main de mes parents et je sortais jamais toute seule. Ce qui est un peu normal, mais j'étais un peu plus collée que les autres à mes parents.
Mmh.
En grandissant, j'ai voulu essayer de marcher toute seule avec quelques chutes, mais sinon, ça a été. Et après, j'ai essayé la canne, mais j'ai pas aimé du tout. Donc, c'est là
D'accord.
qu'on a essayé de trouver une autre alternative et qu'on a trouvé le chien guide, du coup.
T'as essayé la canne à partir de quel âge, du coup?
Je dirais 12 ans. C'est assez tard, quand même. Je voulais trouver un moyen de sortir toute seule sans tomber et de me faire repérer aussi par les autres pour qu'ils fassent plus attention et qu'ils me laissent un peu le chemin, quoi.
Mmh.
La canne, ça m'a pas plu parce que, premièrement, tout le monde te regarde. Moi, dans mon cas, ça me dérange un peu. Alors qu'avec le chien, c'est plus des regards d'étonnement plutôt que la canne, je trouve. Plus des regards bienveillants. Enfin, dans mon cas, je veux dire.
Et du coup, tu as pas du tout employé la canne?
En fait, juste employé la canne pour la travailler un peu. En fait, quand on a un chien, faut avoir un plan B si le chien est malade. Donc, du coup, j'ai employé la canne au cas où si Opium tombe malade ou qu'il peut pas travailler avec moi pour dépanner pendant un ou deux jours, quoi.
Ouais, donc t'as quand même pris un petit peu la canne, et puis je pense que t'as pris des cours de locomotion aussi. Donc on en parlait juste l'épisode d'avant avec Marion, qui est instructrice en locomotion. En effet, parce que ce soit la canne ou le chien guide, il y a un petit peu, comme elle nous disait, le code de la route du déplacement à avoir. Je sais pas si toi, du coup, tu as pris des cours de locomotion dans la structure qui t'accompagnait, hein, je crois, on en avait parlé.
Oui, j'en ai pris au SIAM, ça, dès mon plus jeune âge, vers, je dirais, 8-9 ans. J'ai commencé assez tôt, quand même.
Le SIAM, tu peux nous rappeler ce que c'est ?
Le SIAM, c'est une association qui encadre des jeunes déficients visuels, qui les accompagne dans leur vie scolaire et dans leur quotidien, en leur donnant plein d'astuces et en essayant d'adapter au maximum les supports à l'école et de sensibiliser les professeurs et de donner des astuces pour le quotidien, par exemple faire à manger quand on voit pas ou traverser sans voir les feux, des choses comme ça.
Ce qu'on appelle l'adaptation à la vie journalière, c'est ça.
Oui.
C'est tout ce qui encadre, du coup, compris avec le déplacement, mais des fois, il y a des instructeurs en locomotion dont c'est le métier tout particulièrement. Du coup, toi, tu as appris tout ça, ce qui t'a permis de continuer l'école, le même cursus scolaire que tes amis, j'imagine.
Oui, j'ai fait un an à l'INJA, donc l'Institut National des Jeunes Aveugles, à Paris. Ça m'a pas plu parce que je trouvais qu'ils encadraient trop les jeunes, on va dire. Donc, je suis retournée au bout de 6-7 mois dans le...
Ouais, dans l'enseignement classique.
Voilà, ça.
Et ça n'a pas été trop dur pour toi, du coup, cet retour dans le collège classique vis-à-vis de l'environnement protecteur de l'INJA ?
Non, parce que les profs dans le collège classique étaient vraiment très entourés. Enfin, ils m'entouraient vraiment énormément parce que je suis arrivée en milieu d'année, donc j'étais quand même perdue. J'ai pas eu de pré-rentrée ni rien pour visiter le collège. Tous les élèves de ma classe étaient prévenus et sensibilisés, donc j'ai été vraiment bien accueillie.
Ouais, donc ton retour finalement était mieux que ton départ à l'INJA, de ta propre perception. Ça peut être différent selon les personnes, bien sûr.
Il y a beaucoup de jeunes qui adorent l'INJA et qui y restent.
Oui, c'est fait pour ça aussi.
Oui.
Mais en effet, toi, ça t'a pas tout à fait convenu. Et c'est en sortant de l'INJA que tu as du coup réfléchi à aussi te déplacer autrement. Et c'est là-bas que tu avais appris un peu l'existence du chien guide. Comment ça s'est passé pour toi ?
Oui, j'avais... En fait, la première fois que j'ai vu un chien guide, je me rappelle, j'étais... En fait, on avait des cours d'orthoptie. C'est pour travailler la vision. On devait monter à l'étage, un étage au-dessus de notre salle de classe, du coup. Et il y avait une dame, je crois que c'était une psychologue ou un truc comme ça. Elle avait un chien guide et je l'avais vu dans les couloirs. Et je me suis dit, mais c'est génial, ce truc. Donc, du coup, je lui ai posé plein de questions et tout. Et elle m'a dit que c'était pour les majeurs. Donc, du coup, j'étais un peu déçue. Et 2-3 mois après, le SIAM nous en a parlé. Donc, des chiens guides pour les mineurs. Donc, du coup, j'étais assez contente.
Alors, quand le SIAM t'a parlé de tout ça, il t'a parlé d'une structure unique en France qui s'appelle la Fondation Frédéric Gaillane, dont on va un peu parler, d'où vient ton bel opium, et qui remet donc des chiens à des personnes, des enfants en fait, enfin des adolescents, je vais peut-être plutôt dire, puisque vous devez avoir entre 12 et 18 ans, il me semble, pour recevoir un chien. Alors, c'est le même principe que dans les autres écoles de chiens guides. Hein. Le chien vous est confié gratuitement. Et il y a quelques sensibilisations et quelques cours, on va dire, que toi, tu as dû faire. Comment ça s'est fait, ton approche avec la Fondation Frédéric Gaillane, qui n'est pas forcément tout à fait proche de chez toi, puisqu'on est toutes les deux en région parisienne, il me semble, dans le 92 alors que la fondation, elle, est plutôt dans le sud de la France.
Bah, en fait, premièrement, il faut remplir un dossier médical et un dossier de motivation pour donner toutes les raisons pour lesquelles on aimerait avoir un chien guide. Il faut l'approbation de tous nos médecins, donc orthoptistes, pédiatres ou médecins généralistes. Donc du coup, après, on envoie notre dossier et la fondation nous répond, soit positivement, soit négativement. Et elle planifie un premier stage donc de 2 jours. Donc c'est le week-end de découverte. On va apprendre à marcher à côté d'un chien, à s'en occuper. Donc ça, c'est les premiers soins qu'on va donner à un chien et apprendre à cohabiter avec un chien.
Et toi, c'était quand pour toi ce stage de découverte ?
Le 18 janvier, je crois, 2019 ou 2018, je sais plus.
Et donc ça, c'est la première fois que tu as mis les pieds à l'association ?
Oui.
Et tu avais donc, pour ce stage de découverte, c'est un stage qui se passe pas du tout avec... Enfin, c'était pas du tout avec Opium.
Non.
C'est des chiens, du coup, qui sont spécifiques ou qui sont en cours d'éducation ?
C'est des chiens que la fondation a fini d'éduquer, mais qui n'ont pas été remis parce que la fondation estimait qu'ils voulaient les garder pour tous les stages. Donc, c'est des chiens qui retournent en famille d'accueil quand il n'y a pas de stage ou de démonstration de porte ouverte ou des choses comme ça. Quand il y a des stages, ils viennent à la fondation et ils passent soit 2 jours, soit 1 semaine pour accompagner les jeunes.
Tu te souviens un peu de ton premier contact justement avec le chien dans le cadre de ton stage de découverte ?
Oui, j'ai eu Mouze, je me rappelle. C'est un Saint-Pierre.
Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un Saint-Pierre ?
Oui, un Saint-Pierre, c'est un croisé entre un Labrador et un Bouvier bernois, ce qui donne un Labernois, et après c'est un croisé entre 2 Labernois. C'est une race venue du Canada, spécifique pour les chiens guides.
Parce que du coup, on parle du Canada. Pour ceux qui connaissent un petit peu ce qui se passe au Canada, on parle de la fondation MIRA au niveau du Canada. Et en fait, la fondation Frédéric Gaillane est une entité, ou du moins le prolongement, s'appelait avant d'ailleurs MIRA France, je crois, ou MIRA même Europe, on en parlait l'autre jour. C'est maintenant la fondation Frédéric Gaillane, mais c'est très lié à l'enseignement et l'apprentissage qui a été fait, toute l'expérience quoi qu'a la fondation MIRA au Canada, et notamment ces magnifiques Saint-Pierre, qui sont du coup très majestueux, noirs, et avec un liseré blanc sur le poitrail et le museau, c'est ça ?
Oui.
Donc tu as rencontré Mouze, c'est ça ?
Oui.
Comment ça s'est passé pour toi ?
Je l'ai trouvé un peu molle, mais en fait, plus on fait des stages et plus on définit un peu nos envies de notre futur chien guide. Par exemple, moi, je savais que à travers le stage que j'avais fait avec Mouze, que je voulais pas un chien mou, donc du coup ça écartait tous les chiens mous, on va dire, des idées des éducateurs quoi. Avant même qu'on vienne au stage de remise, ils savent à peu près quel chien ils vont donner quoi.
Sachant que donc tu fais ton stage de découverte de 2 jours que tu as fait en janvier 2019 peut-être on a dit.
Oui.
2018 peut-être parce qu'il y a un stage intermédiaire avant la remise.
Oui.
Qu'on appelle une pré-classe, c'est ça ?
Oui. Donc c'est un stage une semaine. On va du coup changer 2 fois de chien pour tester encore plus de chiens. Donc on va apprendre à plus marcher en ville. On va aller en ville concrète avec des passants, des voitures, des carrefours. On va apprendre à s'en occuper totalement, c'est-à-dire jouer avec lui, lui faire faire ses besoins, lui donner à manger. Mais en fait, on va vraiment faire comme si c'était notre chien et s'en occuper 24 heures sur 24.
Sauf que là, c'est à nouveau, du coup, les chiens prévus pour le stage.
Oui.
Donc, ces chiens dont tu nous as parlé, qui restent dans les familles d'accueil et qui sont à disposition, qui sont au bout de leur éducation, mais qui sont là pour les sensibilisations, les démonstrations, et donc vos classes. Et là, tu avais eu qui en pré-classe ?
J'avais eu News, que j'avais adorée, parce qu'elle était vraiment hyper active et elle guidait assez bien. Et j'avais eu Loft, qui guidait très bien, mais il était un peu mou.
Encore un petit mou. Ok, et donc là, tu as pu découvrir encore plus et apprendre un peu comment être en binôme avec un chien guide dans la vie de tous les jours, c'est ça ?
Oui.
Et vous êtes accueillis, je crois, directement sur le site de la Fondation Frédéric Gaillane, puisqu'on a dit que tu étais assez loin, et c'est le cas de beaucoup de jeunes qui viennent faire ces stages découvertes, ces pré-classes. Du coup, vous êtes tous logés sur place ?
Oui, il y a une dizaine de chambres sur place avec un salon, une cuisine et des douches et des toilettes. Donc voilà.
Bien sûr. Donc vous êtes une dizaine pendant que ce soit le stage de découverte
pour
ou la pré-classe ?
Pour la découverte, nous on était 3.
D'accord.
Pour la pré-classe, on était 5. Non, on était 4, pardon. Et pour le stage de remise, pour la classe du coup, on était 5.
Et comment tu t'es sentie, toi, entre les différents stages ? Du coup, tu continuais à aller au collège en parallèle ?
Oui, les stages se déroulent du coup le week-end pour le stage de découverte. Pour la pré-classe, c'est pendant les vacances.
Bien sûr.
Et pour la classe, avant, ils le faisaient en juin, juillet. Et maintenant, ils l'ont décalé en avril parce que, comme c'est dans le sud, il fait vraiment très, très chaud. Donc, c'est pas agréable pour marcher en ville avec un chien. Donc maintenant, c'est en avril pendant 2 semaines de vacances et ça déborde 1 semaine sur les cours.
Et donc, cette classe tant attendue, ce stage de remise, Il s'est passé comment pour toi? C'était quand?
Moi, c'était en avril dernier, du coup.
Il me semble que le Covid est passé par là et du coup, ça a un peu retardé ton projet, c'est ça?
Oui, d'un an.
Ah ouais, carrément.
Oui.
Donc, ça devait être en avril 2020. Et puis, en avril 2020, on sait tous où chacun était, puisqu'on était chez soi, en général.
Oui. Alors, je sais pas si ça aurait dû être en avril 2020. Enfin, je sais que mon stage de découverte a été retardé. Parce qu'à la base, il devait être en novembre, mais il a été retardé, du coup, en janvier. Le 18 janvier, du coup. Et ma pré-classe, je crois aussi qu'elle a été retardée.
Donc, tu as fait tout ça un petit peu en décalé, mais tu es arrivée en avril dernier à enfin faire ce stage de remise.
Oui.
Et là, donc Opium ne t'est pas confié tout à fait tout de suite, c'est ça?
Oui, il y a 2 jours, donc on arrive le lundi. Et toute la journée, on va tester... non, on arrive le dimanche, pardon. Toute la journée, on va tester les chiens, du coup, le lundi. Mm-hmm. Il y en avait 6, du coup. On en a testé 3 environ, je crois, le lundi. Et on en reteste le mardi. Et le mardi après-midi, ils nous remettent notre chien.
Donc là, on ne parle plus des chiens qui sont éduqués spécifiquement pour les stages. On parle bien des chiens qui sont éduqués pour vous être remis.
Oui.
Là, les 6 chiens dont tu nous parles, vous étiez 6 bénéficiaires en face, du
non,
coup?
Non, on était 5, mais il y en a toujours un de plus, je crois.
Ok, pour laisser un petit peu de marge selon vos relations, quoi.
Oui.
Et toi, alors, ces 2 premiers jours de stage de remise, comment ça s'est passé?
Bah, j'ai pu un peu définir les envies que j'avais, du coup. Je les aimais tous, les chiens, ils étaient vraiment tous adorables et ils guidaient tous super bien. Mais j'avais quelques petits coups de cœur quand même. J'avais Otop, donc c'est un Saint-Pierre, du coup, et j'avais Opium.
Opium, qui n'est pas un Saint-Pierre?
C'est un Labrador noir.
Un Labrador noir. Et alors, tu as du coup donné un peu ton avis aux éducateurs, il me semble que c'est comme ça que ça se passe.
Oui.
Mais c'est eux qui décident, hein.
Oui, ils ont le dernier mot, enfin ils tranchent, quoi.
Alors qu'est-ce qu'ils ont tranché?
Du coup, moi, ils m'ont donné Opium.
Mais du coup, tous les autres jeunes ont réussi à avoir un petit peu leur choix numéro 1?
Non, parce qu'il y avait un énorme coup de cœur sur Otop, on était 3, je crois, à vouloir Otop. Sur 4, parce que du coup, il y a une jeune d'entre nous, dans les 5, qui a eu une remise un peu particulière parce qu'elle a eu son chien guide avant.
D'accord.
Donc, on était vraiment 4 à ne pas savoir notre chien guide avant d'arriver. Et on était 3 sur Otop.
Donc toi, finalement, Opium t'a été confié. Et je crois savoir que pour la Fondation Frédéric Gaillane, c'est un petit peu un événement, cette remise, puisque tu es le centième binôme avec Opium à être créé par la Fondation Frédéric Gaillane depuis sa création.
Oui.
Donc tu as été un petit peu médiatisée, pardon. Je t'ai vue dans différentes vidéos. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé, ces petites vidéos qui ont été faites en dehors de tes vidéos dont on parlera plus tard, que tu fais personnellement? Je crois que c'est Brut qui est venu vous voir.
Oui, Brut, c'est la journaliste, du coup, est venue de dimanche à mardi pour filmer toute la remise. Et elle est revenue le 3 mai, je crois, du coup, pour ma rentrée des classes, enfin ma fausse rentrée, mais la rentrée avec Opium au collège.
Ok, parce que du coup, tu as fait ces 2 premiers jours, au bout de 2 jours de remise, on t'a dit que c'était Opium, mais là, on ne te lâche pas dans la nature tout de suite avec Opium.
Oui, on a encore 3 semaines, du coup, enfin 2 semaines et demie de travail avec notre chien, où on va vraiment aller en ville, on va apprendre des trajets et les faire en autonomie. On va s'en occuper, du coup, vraiment 24 heures sur 24. Et on va beaucoup aussi prendre le temps de créer du lien avec notre chien.
Donc du lien dans le jeu, dans les câlins, dans les moments un peu en dehors du guidage, c'est tout ça?
Oui.
Et comment s'est passé le début avec Opium? Comment tu as ressenti tout ça?
Bah, en fait, l'éducatrice des chiens guides, du coup, Céline, m'a dit que... Enfin, nous a dit que les labradors étaient un peu... C'était un peu difficile de créer du lien avec eux, mais qu'une fois qu'on en avait, c'était indestructible. Donc au début, Opium était assez distant, on va dire. Mais ça a pris bien quand même 2 semaines à que le lien soit assez fort. Au début, il me faisait des câlins, mais c'était pas... Enfin, je veux dire, entre... Au début de la classe et maintenant, c'est incomparable, quoi. Le lien, maintenant, il est indestructible.
Tu sens la différence?
Oui, totalement.
Et à la fin de ce stage de remise, tu nous parlais de ta rentrée. Alors, c'est pas la rentrée scolaire de l'année, mais c'était ton premier retour après des vacances, en tout cas, avec Opium au collège. Comment ça s'est passé? Est-ce que du côté du collège, tout le monde était sensibilisé? Vous aviez préparé un peu le terrain?
Oui, l'école avait mis des affiches, du coup, dans tout le collège. Donc, tout le monde avait vu. Et ils avaient vu aussi les vidéos brutes. Donc, tout le monde était au courant.
Et comment tu as ressenti, toi, ta première rentrée avec lui?
J'étais vraiment très stressée. Je pense que ça peut se voir sur les vidéos brutes, d'ailleurs. Mais,
ouais.
Mais ça s'est hyper bien passé. Et comme on était en demi-jauge, ça m'a permis de m'adapter avec Opium, de rester le matin à la maison ou l'après-midi, du coup. Et de pas avoir tout de suite la cantine à gérer, parce que c'est assez compliqué, je trouve, de gérer la cantine. Parce qu'il faut en même temps manger, avoir le temps de sortir, enfin, avoir le temps de parler avec ses amis. Enfin, donc, c'est assez speed. Donc, du coup, j'ai pas directement eu la cantine. Donc, ça m'a permis de m'adapter vraiment tranquillement.
Donc, ça, c'était du fait des rythmes Covid, on va dire, hein.
Oui.
Ces demi-journées-là, c'était pas du tout vis-à-vis de l'adaptation d'Opium, mais au final, c'est plutôt bien tombé pour vous.
Oui.
Comment justement tu gères la cantine si on essaye de se projeter avec toi en tant que collégienne? Tu arrives à la cantine, que fait Opium à tes côtés?
Du coup, je prends mon plateau. Ça a été assez compliqué de prendre cette organisation quand même, parce que en fait, la cantine, c'est assez speed, donc je prends mon plateau. Je vais sur l'espèce de barrière là où on fait défiler nos plateaux, et du coup une amie me dit ce qu'il y a et elle me met dans mon plateau ce que je veux. Et après je vais on va à table, je déjeune, du coup on débarrasse.
Et tu fais tout ça avec Opium du coup à tes côtés?
Oui, je le prends en laisse avec moi. Parfois il me tire un peu pour essayer d'aller manger les choses par terre. Donc j'ai pas encore fait tomber mon plateau, mais je pense que ça va arriver bientôt. Et donc ensuite, on remonte et je vais le sortir.
D'accord, donc ça lui permet d'avoir un moment de détente au milieu de la journée.
Oui.
En termes de gestion des besoins, parce que c'est vrai que c'est quelque chose, avoir le chien au collège, qui est assez particulier pour toi, j'imagine, pour tes autres camarades de classe aussi. Et c'est quelque chose dont on avait parlé justement cet été, lors de Meilleure Série, avec Capucine et son Wonder Mani, comme on l'appelle dans l'épisode 21, où elle me disait sa maman que c'était pas encore possible pour Capucine d'emmener le chien à l'école, parce que ça la déstabiliserait trop par rapport aux autres troubles qu'elle a par rapport à la présence de ce chien d'éveil. Et c'est un peu la même chose pour d'autres raisons du côté de Romain et Naya de l'épisode 23. Donc Romain est accompagné de Naya, qui est sa chienne d'assistance et qui lui détecte ses crises diabétiques, donc hypo et hyperglycémie. Et là, sa maman et Romain nous disaient, alors Romain espère bien pouvoir rentrer avec Naya très bientôt au collège, mais que c'était un peu plus compliqué parce qu'il fallait justement qu'il puisse gérer sa chienne toute la journée, et donc, comme tu le dis, prévoir des moments de détente et des moments de sortie. Ça n'a pas été compliqué pour toi de t'adapter pour pouvoir faire tout simplement les besoins à Opium, très proche du collège?
Ça a été vraiment compliqué parce que c'est, en fait, moi, du coup, je vois pas de loin. Et le problème, en fait, c'est que si je sors sans mes amis, dans la cour, je peux pas les retrouver. Donc, il faudrait que je trouve un moment pour pouvoir aller faire les besoins où j'ai pas besoin de les retrouver après, quoi. Donc, parfois elles m'accompagnent, mais parfois aussi c'est assez speed, donc elles ont pas le temps de m'accompagner parce que, par exemple, imaginons, il nous reste 10 minutes et elles ont pas fini de manger, donc du coup, je dois remonter vite pour sortir Opium. Je le sors à la récré, du coup, de 10h. Après, je le sors à la pause déjeuner et je le ressors du coup en sortant du collège.
Donc en fait, tu t'es organisée quand même pour avoir Opium à tes côtés. Et on parle pas forcément des cours, parce que Opium, pendant les cours, si c'est la même chose que ce que font mes élèves chiens guides quand je les ai à côté de moi, ils dorment, en fait, on est d'accord?
Oui, totalement.
Ils ronflent un peu?
Oui, oui, énormément même.
Donc ouais, moi je sais que parfois quand je suis en visio ou autre, je les caresse pour les réveiller un tout petit peu du sommeil profond. Ça leur évite de japper, mais je pense qu'avec Opium tu fais un peu la même chose.
Non, moi je le laisse tranquille parce que je trouve que c'est bien d'interrompre les profs quand leur cours est ennuyant.
C'est une autre vision des choses, en effet, mais du coup c'est pas la même responsabilité entre toi et moi, donc c'est tout à fait normal. Et du coup, parmi tout ça, donc là tu as fait ta rentrée il y a quelques jours.
Oui.
Il me semble que tu es rentrée dans un niveau encore au-dessus, puisque tu es rentrée au lycée. Même si il me semble savoir que c'est le même établissement, c'est ça ?
Oui, c'est juste un bâtiment différent.
Et comment s'est passée cette nouvelle rentrée avec des nouveaux camarades de classe, peut-être des gens qui ne connaissaient pas Opium ?
En fait, il y a 43 nouveaux, donc il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas Opium. Mais dans ma classe, je connais presque personne, du coup à part une amie avec qui je suis. Mais pour le moment, ils posent pas trop de questions, ça m'a assez étonnée.
D'accord.
Personne pose de questions et personne va le voir, donc c'est un peu bizarre quand même, mais c'est une bonne nouvelle parce que du coup, j'ai pas à le protéger tout le temps des gens qui veulent le caresser ou des choses comme ça.
Parce que on le rappelle, hein, comme je le dis sur mes élèves chiens guides, ça vaut aussi pour Opium et pour tous les autres chiens guides. Il faut éviter de les distraire, de les caresser, etc. Parce qu'ils ont une mission quand il est à tes côtés. Opium est là pour te guider. Et puis bien sûr, bah, quand il court, là c'est encore autre chose. Quand il est en détente, il a quand même ses moments de folie, j'imagine.
Oui, énorme moment de folie.
Tu le lâches un peu au collège ou au collège-lycée ou pas du tout ?
Non, pas du tout.
Donc tu fais ça dans le bois de Boulogne, je crois savoir, à proximité de chez toi. Et là, c'est la grande détente, la liberté.
Ce qu'il préfère, c'est le parc à chiens.
Ah oui ?
Il y a plein de copains, donc ça, il adore.
Bah, en tout cas, on voit comment Opium est arrivé. Est-ce qu'il y a des choses justement que tu ne pouvais pas faire avant et que tu fais maintenant avec Opium ?
Le plus gros changement, vraiment, c'est sortir avec des amis. Parce qu'avant, enfin, même pas avec des amis, sortir même toute seule. Parce qu'avant, je stressais vraiment de tomber ou de qu'il y ait comme une petite marche, un truc comme ça qui me fasse tomber. Et maintenant, avec Opium, c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus détendu les déplacements.
Donc, il t'a permis d'avoir un rythme tout à fait classique de lycéenne, collégienne, on va dire. Et je me demandais si, par contre, il y avait quelque chose que tu avais appris ou découvert en faisant un peu cette démarche pour avoir un chien guide, quelque chose auquel tu t'attendais pas vraiment en envoyant ton dossier.
J'ai vraiment appris à quel point les familles d'accueil étaient impliquées dans l'éducation des chiens. Je pensais au début que c'était un peu comme des familles qui gardaient juste les chiens chez elles, qui lui donnaient quelques règles quand même, mais je pensais pas qu'elles le sociabilisaient autant. Donc j'ai vraiment appris ça.
C'est vrai que quand on est famille d'accueil ou famille d'accueil relais comme je le suis, on n'est pas juste là pour avoir un chien. On a aussi une petite mission, en dehors de la mission de sensibilisation du grand public, la mission d'éducation du chien. Et c'est vrai qu'on n'est pas juste là pour le garder, le babysitter, j'ai envie de dire. Mais on a pas mal de choses à leur apprendre. Tu as rencontré d'ailleurs la famille d'accueil d'Opium ?
Ouais, d'ailleurs elle est adorable, c'est Nadia. Et elle l'a vraiment hyper bien éduqué parce que il a peur de rien.
Et tu l'as rencontré à l'occasion de la remise, c'est ça ?
Je l'ai rencontré, je crois, 2-3 jours avant de retourner chez moi avec Opium.
Donc tu as pu en apprendre plus sur la jeunesse qu'a passé Opium auprès d'elle ?
Ouais, d'ailleurs, elle nous a montré des photos. On aurait dit une peluche quand il était petit.
Elle t'a du coup envoyé quelques photos que tu peux aussi avoir aujourd'hui avec toi ?
Oui.
Ouais, c'est chouette. Et en effet, moi j'en parle beaucoup des familles d'accueil et je crois qu'il y a la moitié de mes épisodes sur mon podcast sur Chien Guide qui sont sur les familles d'accueil parce que c'est un maillon indispensable, toujours en lien avec les écoles de Chien Guide. Mais sans les écoles, elles feraient pas grand chose non plus. Mais sans les familles, les écoles feraient pas grand chose non plus, faut le dire.
Oui.
Et je me demandais parmi tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu referais différemment depuis le mois d'avril, même si ça fait que quelques mois que Opium est avec toi ? Ou alors la demande, par exemple, l'envoi du dossier, tu l'aurais peut-être fait plus tôt. Si c'était à refaire, comment tu ferais différemment ?
Je pense que je verrais autrement la cantine avec Opium, parce que je l'ai
intéressée
au début. Je pense que je prendrais plus le temps de créer du lien et de jouer que je l'ai fait au début. Parce qu'au début, je voulais vraiment que tout soit parfait, qu'il travaille vraiment beaucoup le trajet pour aller au collège. Et j'ai pas pris le temps, en fait, de me poser et de créer beaucoup de liens avec lui. Enfin, ce qui s'est fait 2 semaines après mon arrivée, quoi. Mais je pense que j'aurais pu faire dès le début.
Et par rapport à la Fondation Frédéric Gaillane, on a bien vu comment ça s'organisait entre les 3 stages. Donc, on a le stage de découverte, la pré-classe et le stage de remise, qu'on appelle aussi la classe, du coup.
Oui.
Est-ce que, par rapport à tout ça, tu as vu des inconvénients ou des avantages à faire ta demande, toi, en tant que mineur? Est-ce qu'il y a des éléments à prendre en compte avant de se lancer dans l'aventure et d'envoyer son dossier à la Fondation?
Bah, l'avantage à faire sa demande, c'est que vraiment, on est responsabilisé très jeune et que on s'occupe d'un autre être vivant que nous. Et ça nous apprend à être plus mature plus rapidement. Et bah, en fait, pour demander un chien guide, il faut vraiment être autonome. Enfin, pas autonome, savoir sortir tout seul ou quoi, mais savoir, par exemple, s'occuper de soi, savoir s'habiller, savoir bah, faire au moins un trajet tout seul chaque jour. Et puis encore plein d'autres critères, mais je ne les connais pas tous. Mais ils sont sur le site de la Fondation.
Donc on remettra le lien vers le site de la Fondation, mais ce que tu dis, c'est qu'il faut pas être dépendant dans les gestes du quotidien,
Et voilà, c'est
principalement.
ça.
Okay. Parce que d'ailleurs, quand tu es en stage de pré-classe ou quand tu es en classe de remise, vous êtes, enfin, y a pas d'aide pour votre quotidien, pour vous habiller, pour vous laver, etc.
Non.
Donc c'est bien un préalable à prendre en compte avant de se lancer dans l'aventure. Par rapport à tout ça, est-ce qu'il y a un moment où, dans ces derniers mois, tu as été bluffé par Opium, un moment où tu t'attendais pas du tout à ce qu'il fasse ce qu'il a fait?
Bah en fait, avant de rentrer chez moi, du coup, sa famille d'accueil, Nadia, m'avait dit que Opium avait une peur bleue des escalators. Et du coup, c'était vraiment un truc que je voulais travailler parce que j'en emprunte parfois dans le métro. Enfin, c'est très rare, mais j'avais pas envie qu'il reste sur une peur. Si un jour on avait envie d'en utiliser, je voulais pas que ça lui pose problème. Donc du coup, j'ai essayé une fois de le faire reprendre un escalator. Et il m'a bluffé parce que je voyais qu'il avait peur. Il tremblait un petit peu, mais il y est allé. Donc ça, je me suis dit que vraiment, en fait, il se donne à fond, quoi, dans ce que je lui demande et ça m'a vraiment, vraiment touchée.
Ouais, bah en fait, il a dépassé sa peur pour toi, son appréhension, on va dire. Et aujourd'hui, les escalators, c'est du passé, c'est quelque chose qu'il gère. Ouais, donc il a vraiment, dès le début, il était à fond pour toi et sans pour autant se mettre en danger, hein, parce qu'il y a pas, y a rien de dangereux dans les escalators. C'est un petit peu impressionnant et en effet, faut les apprivoiser. C'est ce qu'on fait nous en tant que famille d'accueil, hein, on les fait apprivoiser ces escalators. Et est-ce que parmi du coup peut-être tes camarades de classe, de pré-classe, tu as fait une ou des rencontres exceptionnelles que tu aurais jamais fait sans Opium?
Je me suis fait plusieurs amies, dont Manon. Du coup, c'est une bénéficiaire qui était avec moi pendant ma classe et ma pré-classe aussi. Et Marine, que j'ai
Alors.
rencontrée par. Je l'ai jamais vue en vrai, mais je lui ai beaucoup parlé par message et j'ai pu lui poser plein de questions sur le déroulement de la classe, de la remise.
Donc Marine qui a Odor, c'est
Oui.
ça, avec qui je discute aussi pas mal sur Instagram, qui en effet bah, donne beaucoup d'informations et n'est pas avare en tout cas dans les échanges pour nous parler bah, de son quotidien avec Odor et qui vient du coup Odor de la Fondation Frédéric Gaillen également. Et je crois qu'il y a chaque année aussi un parrain ou une marraine pour les classes de remise. De ton côté, c'était qui?
Muriel Urtis, c'était une athlète.
Ok, donc t'as eu l'occasion de la rencontrer?
Elle est venue quand la banque est venue aussi.
D'autres partenaires?
C'est une banque qui finance le centième chien.
Donc tu as été le centième binôme, comme on le disait tout à l'heure, ce qui a fait l'objet de pas mal de petits reportages. Et par rapport à ces reportages, on n'a pas parlé, mais toi aussi, tu fais quelques vidéos, je crois savoir. Est-ce que tu peux nous en parler?
Ben, moi, je fais des vidéos YouTube sur le handicap et sur. Je parle de mon quotidien avec Opium. Donc, je parle des chiens guides, de tout ça. Je donne beaucoup d'astuces sur mon quotidien et puis des choses comme ça. Enfin, je fais beaucoup de vlogs, de choses comme ça.
Comment s'appelle ton compte, ta chaîne, si on veut te suivre?
Bérébigleuse.
Béré Bigleuse, c'est tout à fait ça. Et moi, j'ai adoré regarder parce que même si ça me concerne pas directement, je trouve ça hyper intéressant de voir tout ce qu'on peut mettre en place, que ce soit vis-à-vis de l'école, enfin du collège. Tu en parles toutes les choses magiques que tu fais avec ton ordinateur pour quand même pouvoir suivre et agrandir les documents, etc. Et puis, tu as très bien expliqué aussi comment tu pouvais te repérer bah, sans chien hein, avant d'avoir Opium. Par exemple, je crois dans l'obscurité. Alors, tu nous as parlé au tout début de ta vision tubulaire, donc où tu vois quasiment que au centre de ton champ de vision. Mais tu expliques dans cette vidéo comment tu vois dans le noir, en fait.
Oui. En fait, c'est vraiment bizarre parce que je suis vraiment éblouie par les grandes lumières. Donc, même un lampadaire dans la rue peut vraiment m'éblouir. Donc, la nuit, c'est vrai. Enfin, je suis quasiment aveugle, quoi, la nuit.
Et toi, c'est quelque chose que tu avais déjà travaillé, peut-être
Oui, j'ai déjà travaillé en locomotion.
en locomotion, voilà, parce que les perceptions sont très différentes et pour te repérer, les indices à prendre dans l'environnement sont pas les mêmes. Et c'est ce que tu expliques très bien dans cette vidéo où tu es dans le jardin de chez tes grands-parents, je crois.
Oui.
Ça permet de montrer un peu ce que tu perçois ou pas avec la connaissance que tu en as du lieu, le jour en fait, tout simplement. En tout cas, on ira voir, je mettrai les notes dans les notes de l'épisode le lien vers ta chaîne YouTube, Berry Bigleuse. Est-ce que tu peux nous dire un peu les prochaines vidéos que tu penses faire?
Je pensais faire une vidéo vlog avec Opium de tous les lieux de détente, une routine parce qu'on me le demande beaucoup. Du matin
Qu'est-ce
avec
que...
Opium. Enfin, c'est ce que
D'accord,
je fais
donc...
le matin, tout mon trajet de guidage avec lui et tout. Et sinon, je sais pas vraiment. Je prévois, en fait, dès que j'ai une idée, je la note, mais.
Bon, ça va revenir après les vacances, là. Tu
Oui.
vas en avoir plein de nouvelles. Avec le lycée, tu auras sûrement d'autres choses aussi à raconter. Mais en tout cas, moi, j'ai hâte de voir les prochains, parce que j'ai déjà toutes visionnées, celles que tu as mises à disposition. Mais en tout cas, on redit, hein, la chaîne Béré Bigleuse. Et puis, je crois que tu es aussi sur Instagram.
C'est la même chose, la bileuse.
Bigleuse aussi. Pour finir, je pose toujours une petite question à la fin. Et je voulais aussi te la poser pour savoir quel était ton pire et ton meilleur moment avec Opium, même si ça fait que quelques temps qu'il est à tes côtés.
Le meilleur moment, je pense que c'est soit quand on me l'a remis, soit quand je suis arrivée pour la première fois chez moi avec Opium. C'était vraiment incroyable. J'y croyais pas. Et le pire, c'était pendant une balade avec ma famille du coup et des amis. On était au bois de Boulogne, on était assis sur une grande clair, enfin sur la pelouse, on était dans une grande clairière un peu. Et donc il y avait Opium, il était à 1 mètre de moi, il sentait un peu l'herbe, il mangeait un peu d'herbe et tout. Je tourne la tête, je retourne, on le voit pas. Donc je commence à m'affoler, tout le monde crie Opium, Opium, il revient pas. Et en fait, ce qui était vraiment très stressant, c'était que à quelques mètres, il y avait une route où des voitures passaient à 70 km heure. Ça, c'était, je me disais, si Opium va sur la route, c'est fini, quoi. Donc on l'a appelé au moins, je pense. Ça, en fait, ça n'a pas duré longtemps, mais moi, ça m'a paru une éternité parce que quand on a des moments stressants comme ça, bah, ça nous paraît une éternité. Du coup, il est revenu et on l'a entendu grâce à sa clochette que je lui mets toujours autour du cou. En balade.
Donc, grâce à la clochette, vous avez pu repérer dans quel coin il était. Et je crois savoir qu'il était finalement pas du tout du coin de la route, heureusement.
Non, il était à l'opposé.
Mais ça, on pouvait pas le savoir avant de l'entendre. Et finalement, tout est bien qui finit bien. Il est revenu et maintenant, il est en sécurité. Il n'y a pas de
Oui.
problème. Et ça a dû être un peu, très flippant cette.
Ah, c'était horrible. J'avais l'impression de tomber dans les pommes, en fait. Je sentais plus mes jambes. Le premier week-end où j'ai eu Opium.
Ah ouais. Et t'as mis en place des stratégies depuis pour éviter d'avoir cette peur à nouveau?
Maintenant, je le rappelle souvent quand même.
Ok, comme ça tu sais dans quel coin il est à peu près et t'as moins cette peur. Bon bah écoute, merci en tout cas Bérénice pour tout ça. On retient qu'on peut faire donc la demande en étant mineur, parce que j'en avais déjà parlé un petit peu d'être mineur ou majeur justement avec Timothée. Donc Timothée, lui, dans l'épisode 17, il nous racontait qu'il avait eu son premier chien guide à peine à ses 18 ans. Je crois qu'il les avait pas encore, mais c'est les chiens guides de l'Ouest qui lui avaient remis Baltique à l'époque. D'ailleurs, on félicite Timothée au passage, qui vient de décrocher une médaille d'argent aux 100 mètres sur les Paralympiques et aux JO de Tokyo. J'ai beaucoup pensé à lui ces derniers jours. Et Timothée nous racontait qu'il avait été du coup assez agréablement surpris et que sa vie avait beaucoup changé avec l'arrivée de Baltique, même s'il avait que 17 ans et demi, ça avait été possible. Mais en général, en effet, pour demander à un chien guide en étant mineur, à partir de 12 ans, donc on s'oriente vers la fondation Frédéric Gaillane. Et tu nous as tout décrit, du stage de découverte jusqu'au stage de remise en passant par la pré-classe. C'est très riche de savoir toutes ces étapes-là. Et j'espère que ça va pouvoir permettre à d'autres qui envisagent d'avoir un chien guide en étant adolescent, on va dire, de pouvoir faire leurs demandes et de pas hésiter, parce que je pense que le mot de la fin est pour toi, mais si y a quelque chose à retenir de cette aventure, est-ce que tu le referais ?
Oui, sans hésiter.
On te souhaite beaucoup d'années encore avec Opium. Ça fait que quelques mois qu'il est avec toi et vous en avez encore pour une belle aventure ensemble. Merci beaucoup à toi, Bérénice, pour tout ça.
Et, merci à toi.
On se dit à très bientôt parce qu'on n'est pas vraiment loin au final. À très bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Bérénice pour sa persévérance dans nos péripéties d'enregistrement et son temps en pleine rentrée au lycée, qui me permet aujourd'hui de parler de la Fondation Frédéric Gaillane. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver dès maintenant plein de photos d'Opium et Bérénice sur mon blog futurchienguide.fr. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos retours sur ce nouvel épisode via mon Instagram, @futurchienguide, ou dans un avis Apple Podcast. J'adore les découvrir et ça me motive pour continuer. Et pour faire grandir ce podcast, le meilleur moyen reste encore d'en parler autour de vous, mais aussi de m'identifier sur Instagram lors de vos écoutes. Je partage à tous les coups. Alors, à très bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles.